Il est 6h01 à la météo aujourd'hui. Ce sera généralement ensoleillé. On parle d'un ennuagement qui va se produire tard ce matin. 60% de risque d'averse en après-midi. Il va faire 22 aujourd'hui. C'est un petit peu frais, mais quand même, on ne perd rien pour attendre parce que demain, mercredi, il va faire du beau soleil avec 24 degrés, avec un ciel dégagé également dans la nuit de mercredi à jeudi. Bon, il pourrait y avoir des nuages là dans la journée de jeudi avec 26 degrés. Des averses prévues pour vendredi et retour du soleil samedi prochain. Il fait 18 en ce moment à Montréal. Et soit dit en passant, cet épisode de smog qu'on a connu au cours de la journée d'hier, là, c'était de loin l'épisode le plus important depuis un sacré bout de temps. Ben ça devrait être terminé aujourd'hui. Les alertes ont été levées par Environnement Canada. Et d'ailleurs, ce matin, dans le Journal de Montréal, on nous parle de l'effet que ça peut avoir sur la qualité de l'air, c'est en fait les feux de forêt qui touchent les provinces qui sont voisines, qui ont recouvert le Québec d'un smog intense hier dans le milieu de la journée. C'est comme si les Montréalais étaient enfermés dans une pièce avec 6 fumeurs, selon ce qu'évalue Gilles Brien, le météorologue. Alors, le nombre de particules par mètre cube d'air était à 129 mg. Ça prend 22 microgrammes, j'ai dit milligrammes, c'est des microgrammes, de particules par mètre cube pour la consommation d'une cigarette. Alors, c'est un peu comme s'il y avait eu 6 personnes dans la même pièce en même temps que vous. Le seuil acceptable des particules, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est 10 microgrammes. On était bien au-dessus de ça. Alors, le smog était bien visible dans la majeure partie de la province, un peu partout au Québec, là, même ça allait jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. Donc, c'était répandu, mais là, aujourd'hui, avec les vents qui ont changé de positionnement, puis peut-être un peu d'humidité dans l'air, ça va faire en sorte d'abaisser ces niveaux de smog à des degrés beaucoup plus acceptables. Je vous avertis, là, aujourd'hui, on parle énormément de la pandémie. Je sais qu'il y en a qui sont tannés, là, moi le premier, de cette pandémie, mais il faut bien en parler parce que c'est important, puis ça touche nos vies. Mais il y a plein de nouvelles aujourd'hui là qu'on va explorer justement relativement à ça. Entre autres, Le Devoir nous apprend que à un mois de la rentrée scolaire, et on mise beaucoup sur la rentrée scolaire parce qu'on craint que ça puisse amener une propagation de cas de COVID-19, notamment le fameux variant Delta, là, si jamais les jeunes sont pas suffisamment vaccinés. Or, ce qu'on apprend dans Le Devoir, c'est qu'environ 30 000 élèves montréalais n'ont toujours pas reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19. On parle des 12 ans et plus, évidemment, là. Dans une quinzaine d'écoles de Montréal, il y a moins de 40 % des jeunes qui étaient vaccinés en date du 19 juillet. Il y a même 6 écoles qui affichent un taux de vaccination de moins de 25 %. Alors ça fait craindre qu'il pourrait y avoir de nouveaux cas qui se répandraient à travers les écoles et qui pourraient faire monter la moyenne quotidienne. Là, on est à 96 cas par jour en ce moment au Québec. Alors, si on cite certaines écoles, dans un établissement qui s'appelle l'école communautaire Belz, qui détient le pire score dans cet établissement juif ultra-orthodoxe, 6,6% des 204 élèves avaient reçu une première injection du vaccin en date du 19 juillet. Le taux de vaccination est de 12,8% à l'école primaire Messifta du Canada, également de confession juive ultra-orthodoxe. 16,7% à l'académie Yeshiva Yavne, une école juive orthodoxe aussi. Et les établissements scolaires de confession juive sont toutefois loin d'être toutes dans la même situation. Si on regarde, par exemple, les écoles juives populaires et les écoles Peretz figurent dans le palmarès des premiers de classe à Montréal avec un taux de vaccination de 92 %. Alors, c'est pas une question de religion. C'est, d'ailleurs, on le dit, il y a des représentants du Conseil juif hassidique du Québec qui indiquent que c'est pas une question. Il y a rien, en fait, dans la religion juive qui empêche quelqu'un de se faire vacciner, là, ou même les enfants. Alors, c'est peut-être juste une question de... Peut-être que le message se rend pas. Peut-être qu'on ne s'adresse pas de la bonne façon à ces communautés-là. C'est peut-être ça l'idée. Alors, pour essayer de contrer ça, ce que fait la santé publique depuis un certain temps, ben, c'est de faire des appels téléphoniques auprès les élèves du secondaire, des 30 000 élèves qui n'ont pas encore reçu le vaccin. Alors, la docteure Mylène Drouin, qui est responsable de la santé publique à Montréal, dit qu'on est en train d'appeler un par un tous les élèves là pour essayer de les inciter à se faire vacciner. Jusqu'à présent, 2 000 élèves ont été rejoints. C'est à peu près 30 % d'entre eux qui ont l'intention ferme à l'issue de l'appel d'aller se faire vacciner. Alors là, il faut convaincre les autres à le faire si on veut essayer de briser cette espèce de chaîne de transmission qui, on l'avait vu là cet hiver, s'était beaucoup passé par les écoles. Alors, il y a des jeunes qui se faisaient infecter, ils avaient ça en maison, puis là, infectaient les parents en infectaient d'autres. Bref, ça faisait une espèce de roue qui faisait en sorte que la pandémie, la vague était difficile à briser. Et pendant ce temps, la campagne de vaccination tourne au ralenti chez certaines tranches d'âge. On parle des 18 à 29 ans, même si quand même ça se poursuit, ça progresse toujours. Ça progresse peut-être pas à la vitesse qu'on le voudrait. Mais le Québec a désormais plus de doses de vaccins que nécessaire pour la population. On ne peut pas dire que s'il y a des endroits où on vaccine moins, où en fait il y a des tranches d'âge qui sont plus réfractaires, c'est pas une question de disponibilité de vaccins. Les livraisons prévues dans les deux prochaines semaines permettraient d'administrer deux doses à l'ensemble des Québécois admissibles et d'avoir encore 1 million de doses supplémentaires en attente. Alors, il ne faut pas perdre ces doses-là, selon certains chercheurs, entre autres Mme Nathalie Granvaux, qui est chercheuse au laboratoire de recherche et de réponse de l'hôte aux infections virales du centre hospitalier du CHUM. C'est un long titre, ça, c'est une carte d'affaires. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est que ce serait irrespectueux que des pays qui n'en ont pas encore ne puissent pas avoir accès à des vaccins alors que nous, on serait obligés de les jeter. Le ministère de la Santé a indiqué lundi attendre la livraison de 1,1 million de doses de vaccins de Pfizer cette semaine. Ça va s'ajouter aux 1,5 million de doses qui sont déjà dans les congélateurs de la province. Alors, c'est sans compter les autres doses qu'Ottawa devrait livrer au Québec. Alors, on a des doses à plein pour faire complètement la vaccination. Et à l'instar de la France, du Royaume-Uni et d'Israël, le Canada pourrait aussi ajouter une troisième dose aux personnes qui sont immunosupprimées, parce qu'on se rend compte que même avec deux doses, c'est difficile là d'atteindre une certaine protection pour les gens qui sont immunocompromises, dont la santé est immunocompromise. Alors, une troisième dose permettrait d'obtenir une certaine réponse protectrice. Alors, ce serait souhaitable dans ces cas-là. Mais il y a des gens qui se font proposer maintenant une troisième dose, là, si vous avez des doses croisées qui, pour le voyage, le gouvernement du Québec a émis des directives en ce sens-là. Et certaines doses pourraient aussi être administrées aux 12 ans et moins dès l'automne si Pfizer en vient à des conclusions là, qui soient positives. On est en train de tester ça. On devrait avoir une réponse quelque part au mois de septembre ou au mois d'octobre. Et si c'est le cas, la Santé publique du Canada pourrait autoriser la vaccination chez les enfants. Alors là, on aurait besoin des doses qui sont entreposées dans les congélateurs. On dit d'ailleurs que ces doses-là peuvent se garder, dans le cas de Pfizer et Moderna, pendant 6 mois, selon la notification là, de Pfizer. Mais les chercheurs pensent que ça peut aller beaucoup plus loin que ça. On parle même d'un an à 2 ans. Alors, est-ce que ce serait la voie à privilégier d'attendre, de garder ces doses-là dans des congélateurs? C'est une possibilité. Et pendant ce temps, la fameuse loterie gagnée à vous faire vacciner, là, a atteint hier un taux de participation assez important. J'allais dire alarmant. Il n'est pas alarmant, au contraire, il est intéressant. C'est 520 000 personnes qui ont reçu une ou deux doses du vaccin qui se sont inscrites au concours pandémique gagné à être vaccinées depuis dimanche, malgré certaines ratées qui compliquent les opérations. On vous en faisait part hier matin. Oui, ça fonctionnait, mais pour certaines personnes, c'était plus difficile. Alors, hier, la plateforme a fonctionné relativement bien. Ça a arrêté un bout de temps, puis c'est reparti ensuite. Mais les visiteurs étaient 20 fois plus nombreux qu'à l'habitude à se trouver sur la plateforme qui permet justement de s'inscrire. Et à la fin de la journée, 519 242 personnes étaient inscrites au concours. Juste pour rappeler les modalités, les Québécois qui ont reçu au moins une première dose de vaccin ont jusqu'au 5 août pour s'inscrire au premier tirage hebdomadaire. Les participants vont courir la chance à ce moment-là de gagner à tous les vendredis du mois d'août, c'est-à-dire le 6, le 13, le 20, le 27 août. il n'y a pas de complémentaire dans ce cas-ci, une somme de 150 000 $ en argent pour les adultes. Il y a des bourses d'études pour les 12 à 17 ans. Et si on veut participer au gros lot de 1 million de $, là, il faut avoir reçu les deux doses de vaccin. Et donc, c'est prévu pour le 3 septembre. Alors, les personnes devront avoir reçu leur première dose vaccinale au plus tard le 3 août et la deuxième dose au plus tard le 31 août. Une seule inscription est nécessaire pour tous les tirages, mais il va falloir, si on veut avoir accès aux millions, c'est ça l'incitatif pour la deuxième dose, être vacciné avec deux doses. Alors, tant mieux si ça peut fonctionner. Il y en a qui doutent que cette approche-là soit la meilleure pour inciter, entre autres, les jeunes à se faire vacciner, mais si ça peut fonctionner, tant mieux. Alors, allez vous inscrire, ça fonctionne sur le site actuellement. Et pendant ce temps, en Grande-Bretagne, que se passe-t-il? Vous savez qu'eux autres, depuis la semaine dernière, ils ont levé à peu près toutes les restrictions. Alors, c'est retour à la vie normale là-bas. Et là, il y avait des scientifiques qui disaient, mais si vous faites ça, bien, ça risque d'avoir un impact assez important sur la transmission. On pourrait se retrouver avec 100 000 cas par jour. Alors, quand ils ont décidé d'enlever les restrictions, il y avait un taux d'infection quotidien autour de 50 000 par jour en Grande-Bretagne. Là, ils ont dit, les chercheurs prédisaient qu'à court terme, on allait monter à 100 000. Bien, c'est pas ça qui est arrivé. Au contraire, ça a même baissé et on comprend pas trop pourquoi. Le nombre de nouveaux cas a baissé pour une sixième journée consécutive hier en Grande-Bretagne. Lundi, il y avait eu 24 950 infections rapportées. Alors, contre 39 950 il y a une semaine. Alors, ça continue à baisser. Les scientifiques sont un peu étonné de ces résultats. Et là, on pense que c'est peut-être lié à la fin des classes, parce que la fin des classes là-bas, c'était le 19 juillet. Alors, ça pourrait correspondre avec ça. Il y a aussi il a fait plus chaud. Donc, les gens sont allés davantage à l'extérieur. Ça a eu un effet, croit-on, sur la transmission. Et il y a aussi un plus grand nombre de travailleurs qui ont été forcés de s'isoler parce qu'ils avaient été en contact avec des gens qui avaient été déclarés positifs. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement la COVID ou les symptômes, mais comme ils avaient été en contact, on les a isolés. Alors, on a peut-être réussi de cette façon-là à casser un peu cette espèce de vague. Alors, la Grande-Bretagne est devenue une espèce de test là sur la réaction des gens quand on enlève les restrictions, surtout en période où le fameux variant Delta est en train de se répandre. Il faut dire que là-bas, la vaccination a atteint 70 % des adultes jusqu'à maintenant. C'est un des plus hauts taux dans le monde. Et les hospitalisations, cependant, et ça, c'est la donnée qui inquiète un peu plus, les hospitalisations ont augmenté plutôt que de diminuer au même rythme que les infections. Alors ça, c'est peut-être le côté sombre de l'histoire, mais là, on est en train de voir si ça va tenir, on espère en fait que ça va tenir la route sur plus d'une semaine, mais pour l'instant, là, c'est pas la catastrophe annoncée par les scientifiques. Et si on revient chez nous, au Canada, pendant ce temps, en Colombie-Britannique, alors qu'on a levé certaines mesures, ben c'est le contraire qui se produit. Il y a le double d'infections jusqu'à maintenant qui ont été rapportées au cours des derniers jours après qu'on ait levé certaines restrictions. Alors, vous voyez que d'un endroit à l'autre, c'est différent. La réaction est différente à la levée des restrictions. On avait beaucoup parlé au mois de... C'était pendant l'hiver, je pense, des fameux chevreuils de Longueuil qui étaient très, très nombreux. Sachez qu'ils le sont encore plus. Le fameux troupeau de cerfs qui cause des ravages dans un parc de Longueuil n'a pas arrêté de croître au cours des derniers mois, selon ce qu'on peut lire ce matin dans le Journal de Montréal. La ville, d'ailleurs, tergiverse toujours sur l'avenir réservé aux troupeaux après avoir renoncé à en abattre une quinzaine l'an dernier, parce qu'on avait cédé sous la pression populaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des naissances de faims au printemps. Il y a eu aussi la migration de certains cerfs de d'autres secteurs qui, probablement attirés par l'abondance de nourriture, se sont rendus en grand nombre dans ce coin-là. Selon les observations des membres des Amis du parc là-bas, il y aurait maintenant de 50 à 70 cerfs comparativement à une trentaine l'an dernier. Alors, c'est le double de la population. La ville de Longueuil se contente d'indiquer qu'elle a dénombré jusqu'à 138 serres lors d'un recensement aérien au mois de mars, mais il y en a d'autres. C'est pas juste dans le parc Michel Chartrand. Là, il y a d'autres serres qui avaient été répertoriées qui provenaient du nord de la route 116. Alors là, ce qu'on avait fait, souvenez-vous, on avait voulu essayer de freiner la prolifération en disant, ben, on va en abattre une quinzaine. Il y avait eu un soulèvement, n'est-ce pas, de gens qui ne voulaient pas qu'on tue les belles petites bêtes. Puis on avait décidé de reculer sur cette solution-là. Mais là, il y a l'organisme Sauvetage Animal Rescue qui, elle, a suggéré de relocaliser les animaux. Puis là, on a dit non, on fera pas ça. Finalement, ça s'est jamais fait. On a créé une table de concertation. On est bon des tables de concertation au Québec, là. Alors, puis on attend un rapport à la fin de l'automne, mais selon les responsables de Animal Rescue, ça va être trop peu trop tard. Ce qu'on devrait faire là-bas, c'est stériliser les bêtes, dit-on, pour éviter qu'elles se reproduisent. La ville de Longueuil n'a pas donné de date butoir pour le mandat, en fait, qui a été donné là, à ce fameux comité de cette table de concertation. Mais le rapport devrait arriver, il n'y a pas de hasard là-dedans, devrait arriver probablement après l'élection. Alors, on ne veut pas avoir ça dans les pattes. À l'élection, visiblement. Alors, c'est toujours une question qui est très délicate. Là. C'est sûr que sont beaux là, les cerfs de Virginie, puis c'est vrai quand tu passes le long du parc puis tes voix, c'est toujours cute, sauf que ça fait tout un ravage. Je me souviens, à une certaine époque, à l'île aux Coudres, dans Charlevoix, il y avait eu un programme de réinsertion des cerfs à l'île aux Coudres. Puis on en avait amené quelques couples, puis au bout de quelques années, de 3 ou 4 ans, il y avait du cerf au quart de mille, vraiment de façon importante. Puis là, ça s'était mis à manger toutes les cultures. Il y avait, entre autres, les vergers Pedneau là-bas, qui est une entreprise florissante de l'île aux Coudres, qui se faisait manger toutes ses pommes par les cerfs de Virginie. Il n'était pas très heureux. Alors finalement, ce qu'on avait décidé de faire, c'est de capturer les cerfs, de mettre fin à cette expérience de réinsertion. Puis on les avait amenés, je pense que c'était dans Bellechasse, pour les relocaliser. Les cerfs ont continué à se repeupler là-bas, puis ils n'étaient pas plus malheureux. Là. Ils étaient même probablement plus heureux dans un secteur moins urbain, si on peut dire, moins, en tout cas, résidentiel, en les amenant dans la vraie forêt, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est des animaux sauvages qui vivent dans la nature, là où il doit y avoir un équilibre entre les animaux et les prédateurs, parce que c'est ça, là, la question. Quand tu n'as pas de prédateurs, mais là, il y a une surpopulation, on défait l'équilibre naturel de la nature et on se retrouve avec des problèmes semblables. La nouvelle gouverneure générale, Mary Simon, a été hier assermentée comme première gouverneure générale autochtone au Canada. Donc, ça s'est fait hier dans une cérémonie où il y avait des phrases en français. Il fallait savoir que c'était du français, mais c'était du français. Elle a dit « Je suis honorée ». C'est avec humilité que je suis prête à devenir la première gouverneure générale autochtone du Canada. En tant que gouverneure générale, je m'engage à respecter les normes éthiques les plus élevées, a-t-elle dit en français. Et ça n'a pas été facile, ça a été laborieux, mais elle a quand même dit qu'elle avait la ferme intention, n'est-ce pas, de parler les deux langues officielles du Canada, c'est-à-dire l'anglais et le français. Alors, au-delà de la question de la langue, la cérémonie et le discours de la gouverneure ont laissé place à la réconciliation. Évidemment, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Madame Simon a aussi évoqué le sort des communautés autochtones, mais insisté sur l'importance de la protection de l'Arctique et de l'environnement. Alors, mais il reste que c'est assez délicat d'avoir une gouverneure générale qui ne parle pas le français.